Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si tôt à cette table ronde sur les 20 ans du Bélial. Je suis ravi vraiment de modérer cette rencontre. Si, je pense qu'il va falloir modérer cette rencontre avec... Donc alors je vais présenter tout le monde tout à fait à gauche là-bas, c'est Gilles Dumay. Qui signe aussi ses ouvrages sous le nom de Thomas Day, qui est auteur de genre, scénariste de BD, directeur de la collection Lune d'encre chez De Noël, et qui est, enfin, il va nous expliquer son rapport avec le Bélial. Voilà. Hugo à sa droite, Hugo Bellagamba, qui est professeur d'histoire du droit, c'est ça? Auteur de science-fiction, qui a beaucoup publié chez le Bélial. À sa droite, Jean-Daniel Breck, traducteur bientôt à la retraite, nous a-t-il dit. Voilà. Et qui a beaucoup traduit pour les éditions Le Bélial. À sa droite, Olivier Girard, qui est le fondateur, le PDG, le, je sais pas comment on peut dire, des éditions du Bélial. Et à sa droite, son âme damnée, son séide, son bras droit. Pierre-Paul Durastanti, qui est aussi, lui, traducteur et qui co-dirige, je crois, avec Gilles, la revue Bifrost. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Commençons, Olivier, par la création du Bélial et enfin, la création de Bifrost, puisqu'il me semble que tout commence avec ça.
Oui.
Donc, remontons à il y a 20 ans.
On a commencé avec Bifrost. Vous m'entendez là? Je n'ai pas de retour, donc oui.
Imaginez-le avec des cheveux.
Et 10 kilos de moins. Et donc en avril 96. Donc on a commencé par la revue. Question que je raconte, Laurent, la création de la maison, la création de Bifrost. Donc moi j'étais auteur de nouvelles. J'ai commencé par l'écriture dans l'édition, dans l'édition de genre, avec Hugo notamment, enfin avec un certain nombre de gens. On va en reparler. En publiant mes premiers textes, j'ai pris conscience du manque, de l'absence d'une revue. Correctement diffusé, susceptible de payer un petit peu les auteurs, etc. Puisque Fiction n'existait plus, la revue Galaxy n'était pas encore lancée, moi j'en avais pas connaissance. Je savais pas qu'il y avait ce projet dans les tuyaux de prévu. Et il y avait Cyberdream, je crois, mais qui est une revue que je connaissais pas non plus, qui était lancée par Francis Valéry. Et moi, au regard de mon expérience dans les fanzines, qui était très très enrichissante, mais qui me semblait... manquer de visibilité, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on lance une revue. Moi, ça correspondait à une envie d'édition depuis tout petit. Moi, mon truc, c'est, depuis que j'ai 10 ans, je veux travailler dans l'édition. Voilà, je sais pas vraiment pourquoi, d'où ça vient, parce que c'est pas du tout un truc familial. Mais c'est vraiment ce qui me portait depuis que c'est une vocation très très clairement. Encore une fois, sans que je me l'explique bien. Et du coup, j'ai fait des choix un petit peu drastiques parce que moi, comme dans ma famille, personne, on connaissait vraiment rien à ce cursus. Je savais pas comment on devenait éditeur. Donc, du coup, j'ai fait un choix un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai choisi de pas faire d'études du tout. Donc, j'ai passé mon bac et puis après, j'ai décidé de travailler dans l'édition parce que ça me semblait finalement le truc le plus cohérent, quoi. Je voulais bosser dans l'édition, donc allons travailler dans l'édition. Donc du coup, je suis rentré un petit peu par la fenêtre aux éditions Albin Michel. Parce que l'idée, c'était d'apprendre le métier. Donc je voulais connaître un petit peu toutes les facettes de l'édition. La publication, la librairie, la diffusion, la distribution. Parce qu'encore une fois, j'avais beaucoup d'envie, mais vraiment, j'y connaissais rien, quoi. J'étais un béotien total. Et donc, je suis rentré comme stagiaire chez Albin Michel pendant... Alors, ça devait durer 3 semaines. Et puis, je me suis accroché pendant 2 ans. Voilà. Et puis... Et là, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses chez Albin Michel. Et puis à un moment, il a vraiment fallu que j'essaye de gagner un petit peu ma vie quand même, parce que c'était compliqué, parce que les stagiaires sont assez mal payés dans l'édition, enfin sauf au Bélial, parce qu'on les paye, on n'en prend pas des stagiaires, comme ça c'est plus simple. Et du coup, je suis devenu libraire à la FNAC, parce que c'était l'autre aspect du livre qui me manquait, quoi. Donc j'ai travaillé en tant que libraire pendant 2 ans. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu comme représentant. Enfin, j'ai fait une formation pour voir un petit peu la diffusion, la distribution, comment ça se passait. Donc cette formation d'autodidacte, elle a duré... Tout ça a couru sur environ 5 ans. Et au bout de 5 ans, quelque part, j'avais le sentiment d'avoir fait mes classes, d'avoir fait mon école à moi, quoi. Et parmi toutes les choses que j'ai appris dans ce cursus un petit peu particulier... C'est que j'étais vraiment, vraiment certain de ne pas vouloir patron. Ça me paraissait vraiment évident. Parce que j'avais des idées un petit peu assez arrêtées sur ce que je voulais faire. Et j'aspirais vraiment à une liberté éditoriale totale. Et à travers tout ce que j'avais pu voir, je m'étais quand même rendu compte que la liberté, c'était, dans l'édition, c'est un truc assez compliqué, quoi. J'ai monté ma boîte. Voilà. Et effectivement. Au regard de ce que j'évoquais tout au début, on a commencé par Bifrost, parce que vraiment ça manquait. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième raison, qui est un truc un peu plus technique, c'est qu'on n'avait vraiment pas de sous du tout, rien, pas un radis, que dalle. Et on n'avait même pas assez de sous pour constituer une SARL normale, quoi, pour faire un capital quoi, de départ. Quoi. Et le truc qui est bonnard, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais... Il existait une forme juridique très spécifique à la presse qui s'appelait une SARL de presse. Et là, il fallait un capital de 300 euros. Enfin, à l'époque, c'était en francs, quoi. Donc 2000 francs. Et je me suis dit, bah, tiens, 2000 francs, on peut quand même les trouver, quoi. On a galéré, mais on les a trouvés quand même. Et on est parti comme ça aussi. C'est-à-dire que ça a correspondu à la prise de... Enfin, à l'ambition de faire une revue. Et en même temps, financièrement, on trouvait que c'était pas mal aussi. Enfin, voilà, ça nous arrangeait aussi. Et on a commencé comme ça, un peu le nez au vent, sans diffusion réelle, alors que j'avais bien conscience que c'était le nerf de la guerre, la diffusion, mais on n'en a pas trouvé tout de suite. Et on a donc publié ce premier numéro de Bifrost en avril 1996, qu'on a tiré à 2000 exemplaires, un tirage initial. Et c'est là que je me suis rendu vite compte que finalement j'avais appris des choses dans mon cursus, mais pas assez. Parce que 2000 ex, je me disais que c'était rien. Et pour la petite histoire, 20 ans après, c'est 2000 ex, il en reste encore. Quoi. C'est le numéro 1 de Bifrost, c'est pas épuisé. Quoi. Voilà. C'était les débuts à très très gros traits. Quoi.
Gilles, toi, t'es où à l'époque? Parce que toi, tu fais de l'édition de ton côté aussi, c'est ça? La chronologie est floue pour moi, là, j'avoue. Donc, en 96, tu fais quoi?
En 96, j'avais déjà lancé Lettre SF chez Ancrage. Avec des recueils de Serge Lehmann et Joël Entrebert, il me semble. Olivier et moi, on s'est rencontrés bien avant. Parce que moi, je suis un enfant du fandom. Que je le veuille ou non, hein, c'est comme ça que j'ai commencé. J'envoyais des nouvelles à des fanzines qui n'existent plus, qui s'appelaient La Geste et d'autres choses comme ça. Et Yolo Submarine qui existe toujours, mais qui n'est plus un fanzine comme à l'époque où c'était photocopié, agrafé au milieu. Et donc Olivier, on s'est rencontrés via, je faisais une petite revue qui s'appelait Destination Crépuscule, il m'a envoyé un texte, après j'ai envoyé un texte pour son projet de Bifrost et j'étais en numéro 1 en tant qu'auteur. Et c'est vrai que moi j'étais dans le milieu depuis un peu plus longtemps que toi, 2 ans ou 3 ans, ça fait 2 ou 3 ans que je faisais des trucs quand il a lancé Bifrost. Alors moi j'étais au courant pour la revue Galaxy. Mais j'avais un autre problème, c'est que c'était plus générationnel pour moi, c'est-à-dire que les gens qui avaient mis de l'argent à l'époque, je sais plus, c'était 500 francs pour faire la revue Galaxy, etc. C'était les gens de la génération qui avaient 20 ans ou 15 ans de plus que moi, et je me retrouvais pas forcément dans cette génération. Donc c'est vrai qu'avec Olivier et puis Francis Valéry, qui est un petit peu plus âgé que moi, mais on était plus dans le même esprit, à mon avis, on s'est plus tout de suite entendu.
Mais pour la petite histoire, je fais juste une aparté rapide, mais c'est vrai que moi, encore une fois, je n'avais pas du tout vent de ce projet Galaxy. Je dis ça en regardant Jean Daniel, parce que Jean Daniel a participé à la naissance de Galaxy. Et c'est vrai que si moi j'avais su que Galaxy était en gestation et allait naître, j'aurais jamais fait Bifrost. Donc ça c'est Bifrost. Enfin finalement, on parle de Bifrost aujourd'hui, mais c'est parti d'un malentendu, en tout cas d'une méconnaissance d'un projet qui allait arriver. Et les deux projets sont arrivés à maturité chacun de leur côté en même temps. Et du coup, fatalement, ça a été assez brutal quand on s'est rencontrés. Et parce que voilà, il y a aussi ce que dit Gilles, il y a un aspect générationnel, ça c'est certain. Et puis moi, je suis arrivé, je savais pas trop ce que c'était le fandom, le milieu, les conventions nationales de science-fiction. J'en avais jamais vraiment trop entendu parler. Donc je découvre ça avec mon petit Bifrost sous le bras, dans le coffre de ma voiture. Et je suis plein d'enthousiasme et tout ça. Et je découvre un milieu constitué qui porte un projet depuis des années et qui fatalement, quand même, pour une certaine part, me voit arriver d'un drôle d'air, parce que je suis un peu comme un chien dans un jeu de quilles malgré tout, quoi. Même s'il y a globalement une bienveillance dans ce milieu, mais c'est vrai que... Et puis j'étais un peu con aussi, quoi, donc j'aimais bien... Enfin voilà.
Non, on était sacré fouteur de merde à l'époque. Hein.
Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on a un peu cherché... Enfin voilà, un peu aussi le conflit, parce qu'on s'est un peu nourri de ça, quoi. On s'est fait un peu contre aussi, du coup. Voilà, mais c'était pas du tout prémédité, quoi, en aucun cas.
Gilles disait qu'il était publié dans le premier numéro de Bifrost.
Ouais.
Au début, il n'y avait que des auteurs français et c'était délibéré.
Ouais, c'était délibéré. Je trouvais que c'était vachement ambitieux de publier que des auteurs français. Enfin, le truc débile. Et ouais, parce que ça. Enfin, encore une fois, moi, c'est quand même né d'une frustration, cette revue. Moi, j'étais très content d'être publié dans la geste, enfin dans un certain nombre de fanzines, mais quand même je me disais merde, je lisais des choses dans ces fanzines, et je parle pas de mes textes à moi, mais je me disais les jeunes auteurs, la jeune génération, les auteurs français méritent mieux que ça, quoi. Enfin, on mérite d'être mieux lu, plus accessible, etc. Et donc ouais, c'était dédié. Enfin moi, ma prime ambition, c'était de dédier, enfin de défendre cette jeune génération d'auteurs français, ce qui est encore une fois avec le recul un petit peu absurde et complètement utopique. Et en plus, ça correspondait au champ littéraire que je connaissais le moins finalement, parce que je connaissais beaucoup mieux l'ASF anglophone que l'ASF francophone. Donc voilà.
Du coup, t'as peut-être participé au succès de Gilles et à l'émergence d'Hugo. Enfin,
bah, ça c'est sûr. Sans moi, il n'est rien.
Non mais Hugo, est-ce que toi ton regard par rapport, toi t'as publié des nouvelles dans Bifrost et après t'as été, tes premiers romans ont été publiés par Le Bélial, quel est ton regard là-dessus?
Alors moi j'ai un regard qui est très différent en fait, mais qui est pas loin du tien. D'abord j'ai rencontré Gilles et Olivier pratiquement en même temps.
Dans un concours de nouvelles.
Voilà, dans un concours rencontré. De nouvelles. Alors Olivier avait écrit une magnifique nouvelle qui s'appelait Erre Perennius.
C'est déjà voilà. Un hommage à toi.
Et c'était près de Nice, ouais, c'est ça. C'était en 95 et c'est dans un fanzine, ça a été publié dans un fanzine qui s'appelait Continuum, qui a dû disparaître dans les limbes. Donc en fait, et le point commun qu'on a tous les deux, je le réalise maintenant, c'est que moi je ne connaissais pas du tout le milieu non plus. J'étais totalement en dehors du milieu. Je ne suis pas du tout, je suis à l'opposé de Gilles. Sur ce point-là, en tout cas, pas du tout né dans le fandom. Je ne connaissais rien au fandom. Je pensais à l'époque que André-François Ruault était petit, gros, aux yeux bleus. Et donc
mais
je connaissais absolument pas, voilà, absolument pas les, mais ne serait-ce que même les noms des gens qui étaient acteurs de ce milieu-là. Donc j'étais totalement voilà, un chien dans un jeu de quilles. Voilà.
Je peux t'interrompre, ouais. Juste la première fois que Gilles Dumay m'a téléphoné pour me dire j'ai bien aimé ton texte, j'ai envie de le publier. C'est la première fois que je publie. Il m'a dit c'est super parce que il y a je viens d'accepter un autre texte d'un mec qui s'appelle Hugo Bellagamba. Et pendant une demi-heure, il m'a raconté ton texte, en fait. Voilà, quoi. La conversation, ça a été... C'était genre... J'étais hyper content, mais en fait, il était en train de me dire « Mais il y a un mec, il est meilleur que toi, quand même. »
Mais tu sais, moi, la première fois que Gilles m'a accepté un texte, qui est la seule et unique fois, sa lettre d'acceptation était tellement dégueulasse que j'ai cru qu'il refusait mon texte.
Mais moi aussi. Moi, j'ai cru qu'il avait dit non, et quand il m'a appelé pour me dire oui, j'ai dit « Mais... » Pourquoi tu m'appelles en fait ? En fait, j'ai accepté ton texte.
Il m'a fait pareil. Hein. Il m'a fait pareil quand il m'a appelé. Il m'a dit mais vous avez beaucoup de talent, vos textes sont intéressants, mais j'en prendrai aucun. finalement, bon, enfin voilà, ça a commencé comme ça. Mais non, mais pour revenir sur le rapport avec Bifrost et avec Olivier, et avec Gilles, et avec la naissance du Bélial, donc on est avant la naissance du Bélial, ouais. En réalité. À l'époque, c'est Un Feu sur l'Abîme, c'est Orion, c'est les premiers projets. Et moi, donc en fait, il faut bien que vous compreniez que je suis arrivé en pensant que les contacts que j'avais avec vous deux, et avec toi en particulier, Olivier, c'était ça le cœur de la science-fiction française. Et donc, je n'avais pas l'impression d'arriver chez les marginaux, ou les nouveaux, ou les rebelles, en fait, en quelque sorte. J'ai l'impression d'arriver au cœur de l'Empire. Et je me suis dit, putain, la chance que j'ai, c'est extraordinaire. Je suis au plus près des plus grands, et d'un coup, j'apprends tout. Et donc, et depuis, je n'ai jamais réussi à me départir de cette conviction. Je pense... que ça a marqué profondément mon rapport au milieu de la science-fiction. Et les exigences stylistiques, les exigences narratives, structurelles, qui étaient celles d'Olivier, qui étaient celles de Gilles, hein, puisque je travaillais simultanément avec vous deux, hein, de toute façon, dès les tout premiers textes, dès Écrire l'humain, puis ensuite dans l'anthologie avec les joueurs d'écume et les autres, bien avant les autres textes et bien avant les recueils. Hein. Moi, j'ai appris, je suis né à la science-fiction dans les langes du Bélial, quoi, véritablement. Et je n'ai pris conscience de, on va dire, du positionnement relatif du Bélial. Il me fallait que je change de référentiel, que je prenne du recul, que je sorte du système solaire pour comprendre que je n'étais pas tombé sur Jupiter, mais probablement sur Mercure, au plus cœur de la fournaise, vous voyez. Voilà. Voilà. Non, plutôt Mercure. Plutôt, ça fait un peu froid. Non, au cœur de la fournaise, au plus près du... Voilà. Et du coup, voilà, ça a été ma première approche. Et d'emblée, j'ai fait exactement comme toi, et ça, c'est un autre point commun qu'on a tous les deux, c'est que j'ai compris qu'avant de faire quoi que ce soit de valable, il fallait que j'apprenne. Et donc, je me suis mis dans une situation de l'apprenti, je le dis de façon tout à fait, entre guillemets, corporatiste à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que je me suis mis en position d'apprenti, et j'ai appris. Comme toi, tu apprenais les règles de l'édition, moi, j'ai appris les règles de l'écriture, j'ai appris l'humilité, j'ai appris... Et dans cette maison qui était le Bélial, on m'a donné du temps pour que je devienne un auteur. Et sans le temps qui m'a été accordé, je ne serais jamais rien devenu. Donc sans le Bélial, je ne serais pas en train de parler aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que Bifrost marche tout de suite? Est-ce que tu sens un retour des lecteurs enthousiastes dès le départ, ou est-ce que c'est galère au départ?
Non, c'est une calamité, hein, ça marche pas du tout. Alors, il y a un enthousiasme. Enfin, c'est ce que dit aussi Hugo.
Tu reçois plein de textes, j'imagine.
Et oui, on reçoit vite beaucoup de textes, mais on a plus de textes que de lecteurs, en fait. Quoi. C'est un peu le souci. Quoi. Ça n'a pas tant changé, mais c'est pire, quoi. Et donc, du coup, non, c'est très très compliqué au début, vraiment. Et encore une fois, enfin moi, mon bâton de maréchal initial, parce que ça, c'était lié à ce que j'avais fait avant. Je voulais absolument une diffusion, une distribution, parce qu'il fallait qu'on trouve la revue. C'est aussi bête que ça. Pour la petite histoire, le premier numéro de Bifrost, il y a une chronique sur M6 un soir avant X-Files, qui était un truc. Je sais pas, ça devait être vu par des millions de gens, ouais, des millions de gens. Et c'est le numéro 1, et moi je rentre, je sais pas, d'une chouine, enfin, j'allume la télé, et je vois ce truc-là que j'avais enregistré sur un caméscope à 4h du mat, et je vois le mec qui sort ma revue, quoi. Donc bon, bah là, je manque décédé, et le lendemain, il se passe rien. Mais rien, quoi. Mais que dalle. Donc là, je redécède une deuxième fois. Parce que simplement les gens la trouvaient pas, quoi. Ça, donc je savais que si on te trouve pas, tu n'existes pas. C'est aussi con que ça. Et donc moi je ne cessais de prendre mon bâton, de pèlerin, pour frapper aux portes des diffuseurs, des distributeurs, en disant par pitié prenez-nous, mettez-nous en librairie. Ce qu'on fait c'est important. Il faut ça, quoi. Sauf que on arrive avec une revue, personne ne nous connaît, et une revue de SF, quoi. Donc les gens, ils nous regardent, ils nous prennent pour des dingues, hein, franchement, quoi.
Il faut recontextualiser un petit peu. C'est une époque où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, où on n'était pas tous liés par les emails, etc. Les moyens de... On se téléphonait tout le temps. Voilà, c'est comme ça que ça marchait. Donc maintenant, on s'envoie tous des trucs, des mails, des liens... cette époque-là, c'était différent. Maintenant, on arrive plus facilement à médiatiser les
oui,
choses,
oui.
Le net, les projets.
Bien sûr. Voilà. Ouais, évidemment, Facebook et compagnie. Ouais,
et aussi, c'est une époque où, tout simplement, un truc comme les Utopiales n'avait pas l'audience, l'existence que ça a aujourd'hui. Nous, quand on est arrivé dans le milieu de la science-fiction, une convention mondiale de science-fiction, une convention française de science-fiction, c'était 70-80
ouais,
personnes.
Ouais, c'est ça, ouais.
70-80 personnes. Une convention mondiale aujourd'hui, c'est 3-4 000 personnes. L'Utopiale, 60 000 personnes. Donc, faut voir. On a un peu une chance française qui, à 20 ans, on n'avait pas. C'était, ça n'existait pas.
Du tout. Ouais. Absolument. Ouais. Donc, nous, là, on avait acheté une carte IGN de 2 mètres sur 2 qu'on avait plein collée dans nos locaux. Et on mettait des punaises de toutes les couleurs sur les villes. Les libraires qu'on avait appelés, machin, en fonction de ce qu'ils nous avaient dit. Donc on s'est retrouvé avec un hérisson monstrueux de toutes les couleurs. En disant, voilà, tel libraire a reçu tel bouquin, il va nous le retourner, machin. On avait fait un contrat avec La Poste pour qu'il puisse nous envoyer le bouquin. Enfin, c'était une usine à gaz, vraiment, c'était épouvantable, quoi. Et au bout de 4 numéros, on trouve un diffuseur. Et c'est là que ça commence réellement, en fait, quoi. On trouve un petit diffuseur, mais néanmoins un diffuseur. Et donc là, on commence à avoir des vraies mises en place en librairie, etc. Des vrais réassorts. Les gens nous découvrent, les abonnements commencent à monter. Et il se passe quelque chose. Et donc ça, c'est un an à peu près d'existence de l'Invue.
Et quand commences-tu à publier des romans, en fait ? À partir de quel moment tu bascules ?
Bah, le truc, c'est que... Donc là, nous, on était toujours en SRL de presse, donc on n'est toujours pas un radis. Donc en fait, légalement, nous, on n'avait pas le droit de publier de romans. On avait le droit de publier des revues, éventuellement des anthos numérotés, donc des trucs périodiques, mais pas de romans. Et là-dessus, enfin moi je travaillais déjà beaucoup avec Gilles à ce moment-là, quoi. On se passait notre temps au téléphone, les uns chez les autres. Enfin voilà, on était déjà très 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 liés. Et Gilles, dans le même temps, lui, il avait monté une structure. Et comme Gilles, il est très très riche, lui, il avait une vraie SARL qui lui permettait de faire des vrais livres, etc. Et donc, en revanche, lui, il n'avait pas de diffusion. Donc toi, voilà, on a fait 1+1, quoi. Tu peux faire des bouquins, moi j'ai une revue, t'as pas de div, j'en ai une. Bah voilà, faisons vraiment les choses ensemble, quoi. Et on a marié plus ou moins... Enfin, c'est le doigt mouillé, enfin, il n'y avait pas de contrat, rien, mais ça, on s'est mis à travailler ensemble en réunissant les forces vives de sa maison et de la mienne. Voilà, on a réuni Bélial et Orion. Et puis très vite, Gilles, et je finis là-dessus ouais. Avant de te donner la parole. Gilles, après lui, s'est produit un miracle, un truc complètement improbable. Il a été recruté par De Noël, quoi, n'importe quoi. Et donc là, évidemment, moi j'étais à la fois estomaqué, ravi pour lui. Enfin, faut se rendre compte de ce que ça représentait pour nous, Présence du Futur. On avait 25 ans, hein. Enfin, là, on est vieux, chauve, gros et tout, mais on est, enfin, et Présence du Futur, c'était un truc énorme, quoi. On a grandi là-dedans, là, pour le coup, vraiment. Et en même temps, j'avais un peu l'impression de perdre mon frangin, des premiers combats, tout ça. Alors que bon, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait d'Orion, donc de sa maison, quoi. Et là, le Bélial a vraiment récupéré le bac catalogue, un certain nombre de contrats, pas tous. Et nous, on a basculé vraiment à ce moment-là en SARL classique. Et de manière à pouvoir faire des romans autonomes, Bélial tout seul, quoi. Mais ça, c'est 3 ans et demi après la création de la maison, quoi. Donc on a déjà 3 années de Bifrost derrière nous, quoi.
Pierre-Paul, toi, tu arrives quand dans l'histoire ? Ouais ?
Moi j'arrive pardon. Moi j'arrive à ce moment-là. En 98, je monte à Paris, passer quelques temps. Et je vais notamment travailler pour Rivage, etc., avec Doug Headline. Et comme De Noël est une des maisons pour lesquelles j'ai travaillé, j'apprends qu'il y a un successeur à Jacques Chambon, avec lequel j'avais beaucoup travaillé, je connaissais très bien, qui était un ami. Et donc, je décide d'aller me présenter, ne sachant absolument pas sur qui, sur quoi j'allais tomber. Donc, j'arrive chez De Noël, je trouve un type fort sympathique, en camarguaise, enfin en boots, quoi, avec un espèce de t-shirt avec une tête de mort et tout. Je me dis, tiens, ça a changé l'ambiance quand même, c'est plutôt sympa, quoi. Donc on fait connaissance, on sympathise, et il me dit je sais pas, quelques temps après, mais genre quelques jours ou quelques semaines après, il me dit, tiens, je fais une bouffe chez moi, il y aura un peu de monde, quoi, si tu veux, tu viens, quoi. Bon, il faut savoir que Gilles fait très bien la cuisine. Et donc, je découvre que les talents culinaires de Gilles. Et au milieu de ça, on était, je sais pas, 10 ou 15, quoi, il y avait Olivier Girard qu'on me présente, quoi. Et il se trouve que je connaissais Bifrost parce que le regretté Roland Wagner tenait une des rares rubriques qui faisait l'actualité de la SF à l'époque et qui paraissait dans Casus Belli, la revue de jeux de rôle. Je suis rôliste. Et donc, j'ai découvert l'existence de Bifrost. Roland, avec sa bonhomie habituelle, avait dit beaucoup de bien de la revue. Donc, en toute confiance, je les ai commandés. Les yeux sont tombés quand j'ai lu les premiers numéros de la revue qui sont, on va dire, perfectibles. Notamment au niveau de l'orthographe, de la maquette, enfin, les trucs un peu de base, quoi. Un peu de tout, en fait, quoi. Et enfin, ça avait le mérite d'exister, ce qui était déjà pas mal, quoi. Et je me dis, tiens, bon, c'est bien. Alors, j'avais les quatre premiers numéros. Bizarrement, j'ai acheté les suivants, mais bon, c'est des moments d'absence parfois. Et donc, il me dit, Olivier Girard, je dis, bonjour, il me fait, ah, c'est Bifrost. Je fais, ah oui, c'est toi, Bifrost. Il y a eu un blanc, quoi. Puis après, il est venu me parler, il me dit, mais tu connais la revue et tout. Je dis, oui, oui. Dit, tu aimes bien? Je dis, c'est pas le mot, mais je trouve ça intéressant. c'est méritant, c'est méritoire. Et en fait, il m'a proposé assez vite de filer un coup de main, quoi, parce que bon, on a sympathisé et tout. Et il m'a invité chez lui, à l'époque, c'était à Maury-sur-Loing. Et on a commencé à discuter. Et pour l'anecdote, on a commencé à discuter de projets qui se sont réalisés genre cette année, quoi, y compris la collection Pulps, quoi. Voilà, il faut du temps pour le convaincre, quoi, souvent. Moi, j'ai été donc à Paris pendant un an et demi. Après, je suis rentré dans mon sud-ouest. Mais on est resté en contact et il m'a proposé de commencer d'abord, surtout sur Bifrost, quoi. Donc j'ai aidé. J'ai un titre ronflant, je suis secrétaire de rédaction, ça veut dire que je relis les articles, le contenu de la revue pour essayer d'éliminer les petites scories qui peuvent subsister. Ceci est une litote. Par ailleurs, comme on avait commencé à discuter aussi de livres, quoi, de projets, on a commencé à mettre en place des projets, genre, je sais pas, Omnibus, enfin La planète géante de Jacques Vance, un premier Omnibus Bracket qui a mis très 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 longtemps à se réaliser, mais on a commencé à faire des projets comme ça, souvent sur de la SF classique, mais pas que, quoi. Et donc petit à petit, je me suis de plus en plus investi dans la maison d'édition au point de vue éditorial, et par la suite même comme traducteur, tout bêtement pareil, en commençant dans Bifrost, parce que de temps en temps je disais, tiens, il y a cette nouvelle, elle est bien, donc il m'a dit, bah oui, très bien, alors on la prend et tu la traduis. Et comme ça, petit à petit, on a collaboré de plus en plus. Mais ça, effectivement, oui, ça date de 98, et j'ai connu les deux Olibrius, là, à peu près en même temps, quoi. Hugo, je l'ai rencontré plus tard, et Jean-Daniel, on se connaît depuis 35 ans. Donc voilà.
Donc au début, c'est des auteurs français que tu publies en roman, pas de traduction? Au début. Quels auteurs et qui édite les bouquins, en fait, qui travaille? Est-ce que Gilles participe au travail éditorial?
Oui, totalement. Dès le début, bien sûr. D'abord, de toute façon, quand on réunit les deux structures, finalement, moi, je récupère tout ou partie de ces projets éditoriaux, quoi. Bon, alors, ce que je veux, quoi. Mais il est partie prenante initialement.
Quand je suis parti chez Domaine, c'est surtout André-François Ruault qui a pris la main sur pas mal de projets, pas mal la revue, tout ça, parce que tout simplement, moi j'avais une clause d'exclusivité.
Sur Étoile Vive, tu veux dire.
Ouais, Étoile Vive, la revue Étoile Vive. J'avais une clause d'exclusivité qui ne me permettait plus de faire tout ça, quoi. Il a fallu faire la transition, mais la transition, elle s'est faite en 99, je pense, 99-2000. C'est vrai que c'était plus simple pour moi de travailler sur la revue que sur les livres, c'était pas possible, puisque j'étais de fait un peu en concurrence, même si on fait pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même très proche. Et voilà, donc André a aussi eu une part dans le glissement qui s'est passé. Puis après André est parti pour de nouvelles aventures qu'on connaît tous, mais ça s'est passé comme ça, quoi.
Alors quels sont les auteurs historiques, si tu veux, du Bélial, et ceux que même tu continues toujours à publier? Il y a Di Rollo.
Sur les Français?
Ouais.
Bah, il y a Hugo, quoi, clairement. Di Rollo, Claude Eken, bien sûr. Mm. Et oui, Jean-Jacques Nguyen, enfin ce genre d'auteur-là qui pour ça, enfin Jean-Jacques écrit peu, enfin mmh. plus. Mais oui, on est parti avec ces auteurs-là, ouais, okay. globalement.
Et à quel moment
André Vaughan, hein, c'est tôt aussi. Ouais.
Quel moment tu commences à dire maintenant on va commencer à traduire des romans oui, parce que ouais, Thomas il faut Day. Dire aussi qu'à un moment
Thomas Day, bien sûr.
dans Bifrost, tu commences à publier des traductions. Tu as décidé d'arrêter de faire...
Sur le numéro 8, je crois, à compter du numéro 8, et on ouais, commence avec un texte de Baxter.
Ça devient trop difficile de trouver des bons textes français, c'est ça le...
Ouais, c'est, bah, oui, notamment, oui, on n'arrive pas à nourrir la revue, clairement, quoi, clairement.
Enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant des années, il n'y a plus de revue. Pendant 5 ans, il n'y a pas de revue du tout. Avant. Et donc, d'abord, il y a Cyber Dreams, dont l'ambition est plutôt de publier de la SF traduite. Il y a quelques textes français, mais comme dans fiction, le fiction originelle, il y a un ou deux textes par numéro. Et puis, c'est pareil, Cyber Dreams, c'est un trimestriel, les bonnes années. Donc, on ne peut pas écouler beaucoup de choses. Galaxy n'existe pas encore. Mais pendant ces années-là, se crée une espèce de vivier de textes qui tout simplement ne trouve pas de débouché parce qu'il n'y en a pas, sauf en fanzine. Quoi. Donc effectivement, ça fausse un peu le problème, c'est qu'au début, des gens arrivent, ils ont un réservoir de textes. Il y a des gens qui comme ça, sont étant peut-être pas des auteurs frustrés, mais des publicateurs frustrés, si j'ose dire, si j'ose utiliser un néologisme. C'est comme ça que ça permet d'avoir des textes tout de suite de gens comme Thomas Day, de Serge Lehmann, qui a publié aussi très vite dans la revue.
Numéro 2, ouais.
Voilà, qui est arrivé vraiment très vite aussi, et qui a publié en plus tout de suite ses premiers meilleurs textes dans Bifrost, ouais. L'inversion de Polyphème, ce genre de choses. Quoi. Et donc, comme ça, ça a créé un vivier. Et par ailleurs, les gens qui étaient déjà professionnels, ils avaient vocation et inclinaison naturelle à se tourner vers Galaxy. Dont Jean Daniel était un des créateurs et un des responsables éditoriaux. Quoi. Donc ça a créé en fait une espèce de dichotomie qui n'est pas voulue mais qui est quasiment naturelle. Quoi. Le milieu établi en quelque sorte qui avait participé à la création, qui avait suscité même la création de Galaxy, des gens comme Gérard Klein, Jean-Claude Dugnac, etc., se sont retrouvés derrière Galaxy et les auteurs un peu établis y sont venus, même si Galaxy a toujours, notamment sur l'impulsion de Jean-Claude Dugnac, eu un rôle de découvreur, mais Bifrost, en quelque sorte, par pauvreté économique, s'est retrouvé à accueillir un peu tous les nouveaux. Quoi. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé, en fait.
Ouais, y a un autre versant aussi. J'ai beaucoup poussé Olivier à publier l'anglo-saxon à une époque, parce que j'avais été un peu retourné par la génération Interzone, et j'avais découvert Eric Brown, Stephen Baxter, Greg Egan. Tous ces gens-là, je les avais découverts dans Interzone, qui était une revue anglaise. Je ne sais pas si elle existe toujours, d'ailleurs. Je ne la lis plus. En tout cas, si elle existe toujours. Qui était éditée à Brighton. Et j'avais sympathisé avec le mec qui éditait ça en Angleterre. Et donc, il me disait, mais regarde tel texte de tel mec, etc. Regarde tel type qui... Alors, c'est comme ça que j'ai vu les premiers textes d'Alistair Reynolds. Mais vraiment, quand il était tout jeune, il commençait, il n'avait pas encore fait de roman, etc., etc. Et donc, je poussais Olivier en lui disant, ben, Stephen Baxter, ben, Greg Egan... etc.
C'était la source principale de Cyber Dreams, d'ailleurs. Enfin, ça,
oui, il y avait aussi...
C'était Century 21, la lente de Sylvie Denis.
Au départ, oui. Mais en fait, c'est qu'en travaillant chez Ancrage, sur Century 21, où j'avais été plus ou moins attaché de presse, que j'ai découvert ces textes-là traduits, et qu'après, je suis allé les voir dans la langue originelle. Quoi. Et moi, je suis convaincu, bon, c'est mon point de vue, hein, que les auteurs français... les auteurs de langue française doivent se confronter à ce qui se fait de meilleur dans le genre, que ce soit anglo-saxon, japonais, tout ce que vous voulez, et donc ils doivent avoir accès à ces textes-là. Ils doivent avoir accès à ce qui est nouveau, ce qui est révolutionnaire. Dans les années 90, quand on est arrivé, ce qui était révolutionnaire, c'était Greg Egan. C'était vraiment, c'était le truc qui vous retournait le cerveau, comme dit que vous avez retourné le cerveau 20 ans avant, quoi. Et puis maintenant, il y a des Peter Watts ou des Ken Liu, il y a toute une génération de ces gens-là. Et si nous, on veut être bons, si nous, on veut digérer tous ces trucs-là, il faut qu'on puisse les lire. Alors, tout le monde ne lit pas en anglais. Et donc, on est des passeurs de textes. On est là aussi pour faire découvrir, en français, bien traduit, les Ken Liu, les Nancy Kress, tout ce qui est nouveau, en fait, dans la science-fiction, puisque, comme cette littérature est quand même une littérature, je dirais, de groupe, où chacun nourrit l'autre et où chaque idée, il n'y a pas tellement de copyright sur les idées. Par exemple, quand il y a eu un mec qui a inventé, tiens, on va mettre l'esprit de quelqu'un sur un support informatique, ben, il n'y a pas un type qui a mis un copyright sur l'idée. Gibson l'a utilisé, Walter John Williams l'a utilisé, tout le monde l'a utilisé au bout de 2 ans, 3 ans. Et ben, pour que cette idée-là, elle vienne et qu'elle enregistre, elle enrichisse les Français, les lecteurs comme les auteurs, il faut que ce soit disponible. Donc, il faut publier le meilleur de la SF français, mais aussi anglo-saxon, japonais. Je pense que malheureusement, sur le Japon, on a beaucoup, beaucoup de lacunes parce qu'il n'y a personne qui a pris. C'est toujours une histoire de chevalier. Hein. Il faut qu'il y ait un type qui prenne un sujet ou un auteur ou, et qu'il le mette en avant et qu'il fasse, comme Olivier l'a fait sur les nouvelles de Greg Egan, comme j'ai pu le faire sur d'autres trucs. Il faut qu'on, voilà, faut se battre sur un truc où Lucius Shepard, c'était Jacques Chambon pendant des années qui publiait Shepard. Moi, je voyais les chiffres de vente chez Donald, je peux vous dire, ça ne se vendait pas du tout. Hein. Mais il continuait.
Alors qu'au Bélial, c'est énorme.
Bon, justement, on parle de Shepard. Jean-Daniel, toi, comment tu passes de Galaxy à Bifrost et...
Par traitise.
De Caribe dans Scylla.
Ils m'ont fait un Pandore. Non, en fait, ce qui s'est passé, sans trop rentrer dans les détails, à un moment donné, j'ai donné ma démission de Galaxy à une certaine époque, c'était en 2002, tout simplement parce que j'étais crevé, que je faisais un travail énorme. Bon, mon rôle dans Galaxy, donc de temps en temps, je chapeautais une rubrique, la rubrique critique, etc., mais mon rôle essentiel, c'était de faire la présélection des textes anglo-saxons. Donc, je lisais énormément, je lisais les principaux magazines, donc Interzone, Asimov, FNSF, je lisais les anthologies Best Of, il y en avait deux ou trois à l'époque, donc, et je me suis aperçu au bout d'un moment que j'ai fini par saturer. Je n'avais plus de temps à moi, parce qu'en plus je continuais à être traducteur professionnel, donc, je n'avais plus de temps à moi pour lire ce que j'avais envie de lire, donc j'ai prévenu Stéphanie Nico un an à l'avant, je lui ai dit écoute, je te fais encore quatre numéros, et puis à la fin des quatrièmes numéros, je lui ai laissé un pool de textes, et puis je suis parti. Je me suis un peu reposé. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il m'a appelé l'animal. C'est-à-dire, l'idée, si je me souviens bien, c'est qu'avec Pierre-Paul, ils avaient préparé la réédition restaurée de La Patrouille du Temps, de Poul Anderson, le premier volume. Et Pierre-Paul lui a suggéré, mais tu devrais demander une préface à Jean-Daniel. Donc, Olivier me contacte, on discute. Je lui dis, oui, d'accord, c'est une excellente idée. Et je lui dis, mais tu sais qu'il y a trois autres volumes inédits en français. Et bon, ah Et alors à ce moment-là, il m'a dit, bah, écoute, Pierre-Paul, il est sur d'autres projets. Si jamais celui-ci marche, on publiera le deuxième, tu le traduiras et puis on verra. Et de fil en aiguille, on a tout publié. Quoi.
C'est une des caractéristiques, si on avance dans le temps, c'est qu'au bout d'un moment, donc, tu traduis des auteurs, enfin vous traduisez des auteurs anglo-saxons, et puis il y a toute une partie patrimoniale en fait, qui se crée. Et tu réédites des choses retravaillées.
Dès le début, en fait. Hein. Et ça, Pierre-Paul est pour beaucoup là-dessus. Hein. C'est principalement l'influence de Pierre-Paul initialement. Et en même temps, ça correspondait à une aspiration profonde, c'est-à-dire la dimension patrimoniale. De toute façon, l'édition, en ce qui me concerne, moi, c'est un trip de gosse, vraiment. Quoi. Et quand on se met à publier Jacques Vance... Enfin, moi, c'est un accomplissement énorme, mais réellement. Même quand j'en parle maintenant, j'en ai encore des frissons physiquement. Quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé à nourrir des projets de cet ordre-là avec Pierre-Paul, qui correspondaient à ce que je voulais faire de manière viscérale. Bah, tout de suite, oui, je lui ai dit oui, mais c'est bien sûr, allons-y. Quoi.
De toute façon, nous, ça, Bifrost, ça fonctionne comme un groupe de rock. Il y a un chanteur, quoi, un guitariste solo, quoi, mais il y a vraiment des gens qui on riffe les uns sur les autres. Quoi. Et par exemple, moi, quand j'ai commencé à discuter avec Olivier en lui disant, parmi les choses qu'on pourrait faire, il y a tout un pan de la SF qui est en train de disparaître. Une SF populaire de qualité qui n'est pas forcément publiée chez Folio, en tout cas pas à terme. Et puis en plus, les traductions sont vieillottes ou coupées, ou etc. Donc on peut faire le côté commercial en quelque sorte, même pour les gens qui connaissent, l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, c'est de lire des textes restaurés, etc. Et en même temps, cette démarche était en train de s'installer sous l'influence de Gilles. Parce qu'en fait, un des premiers à avoir fait de la SF patrimoniale, c'est Gilles, qui a republié Les Loups des Étoiles de Hamilton chez Le Noël. Moi, j'ai un peu travaillé, d'ailleurs, j'ai relu par-dessus son épaule, disons, le boulot qu'il avait fait, lui, de restauration du texte. Et j'avais donc déjà dans l'idée de me dire, tiens, on pourrait... Lui, il ne peut pas le faire, enfin, il ne va pas faire l'une d'entre elles, ce n'est pas du tout une collection qui a vocation à ça. Tu l'as fait parce que c'est amusé, quoi, c'est éclaté.
Exactement ce que tu dis sur le truc de gosse, c'est-à-dire que les Loups des Étoiles, c'était... L'idée peut-être de la SF que j'achetais d'occasion quand j'avais 14-15 ans.
Au masque.
je les prenais en gélu, et donc j'avais envie de retrouver ça sur une dent. J'ai pas envie de faire que ça, mais j'avais envie de retrouver ça. Et c'est vrai que j'ai grandi avec Frank Herbert et avec le masque qu'on trouvait à l'époque. C'était 3 francs, 4 francs. Et je me souviens tous les mercredis avec ma mère, on allait acheter ces bouquins-là, quoi. Donc ça marque forcément parce que c'est des trucs d'enfance. C'est comme, on n'en a pas parlé jusque-là, mais Olivier et moi, on a un truc en commun. On a plein de trucs en commun, mais il y en a un qu'on a en commun, qui est un truc vraiment générationnel, c'est que nous, on a grandi avec Conan le Barbare, La Chair et le Sang, Blade Runner, Star Wars, etc., Indiana Jones. On est toute cette génération-là, on a grandi avec un cinéma qui est le cinéma des effets spéciaux et de l'aventure et de Hollywood qui découvre les blockbusters. Et c'est les derniers films comme ça où il y a de la magie. Vous regardez les films d'aujourd'hui, il y a peut-être plein d'effets spéciaux, mais il y a quasiment plus de poésie, il y a quasiment plus de magie dedans. Ils sont produits, dénaturés. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que, quand on aime ce cinéma-là, vraiment le cinéma du début des années 80, de la fin des années 70, le nouvel Hollywood, etc., il y a le même phénomène sur 20 ans avant en science-fiction. On aime aussi une SF qui est la SF 55-65, où il y a encore cette poésie de le mec, il arrive chez lui, bah, il pose sa fusée dans le jardin. Voilà. Et c'est aussi cette poésie de l'homme va aller dans l'espace. Aujourd'hui, vous regardez, c'est les robots vont aller dans l'espace. L'homme va plus dans l'espace ou plus trop, ou on va expliquer qu'il va mourir dans l'espace. Mais nous, à mon époque, de lecteurs de 12-13 ans, eh ben, non seulement on y était dans l'espace, mais on rencontrait des extraterrestres, on découvrait Rama, etc., etc. Et c'était poétique et magique, parce que c'était doublé de le premier homme sur la Lune, l'émission Apollo, c'était doublé d'une réalité qui est qu'on était en train d'y aller. Là, maintenant, on n'y va plus, on est redescendu. Là où on est le plus haut, c'est 360 km au-dessus de l'atmosphère, quoi. Donc, quand je publie Les Loups des Étoiles, qui est globalement une histoire de pirates et de punk dans l'espace, mais écrit par un vieux monsieur qui ne devait pas savoir ce qu'était le mouvement punk, on retrouve ça, cette magie, les pirates spatiaux, les machins, les grandes aventures, les océans. Et c'est vrai que ça me manque un peu dans la SF d'aujourd'hui. Pas le côté espace, parce qu'il y a plein de choses dans l'espace, mais peut-être un peu le côté poétique et désuet, un peu naïf. La SF d'aujourd'hui est devenue très noire et très cynique, à raison, hein, pour plein de raisons. Et ça manque un peu de choses, un peu légères, marrantes, naïves, un peu l'incal de Jodorowsky, un peu de trucs comme ça, quoi.
Hugo, vous voulez dire quelque chose?
Juste pour ajouter un aspect aussi de l'histoire de Bifrost, dont on n'a pas encore parlé, je pense. Donc, tout ce qui a été dit sur le côté, justement, mettre au contact les auteurs français avec ce qui se fait de mieux en production anglo-saxonne, américaine, pour les stimuler, etc., créer une communauté, créer un travail communautaire, tout ça, ça a été dit. Le côté aussi sense of wonder, on l'a dit, hein, et pour cause. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit encore, c'est que le travail qu'on faisait à Bifrost, enfin qui a été fait par Bifrost notamment, il y a aussi un travail sur le formalisme, et je le dis au sens noble du terme, pas au sens négatif du terme, avec le travail sur les novellas. Moi, à ma connaissance, dans l'impression que j'ai quand je regarde comme ça vers le passé et le travail qui a été fait, il y a eu tout un travail de promotion de la novella, de ce format de nouvelles chapitrées particuliers qui était possible de déployer dans les pages de Bifrost et donc sous couvert du Bélial. Et ça, c'était vraiment une marque de fabrique. C'était vraiment une exigence formaliste de travail, de structure, de travail sur la forme, qui permettait, comme vous le savez bien, quand la forme est efficace, elle conditionne l'accessibilité au fond. Et ça permettait à certains textes, à certains auteurs français, de se surpasser, d'aller au-delà de ce qu'ils étaient capables de faire ou de ce qu'ils croyaient être capables de faire, en s'inscrivant dans la novella. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifique aussi à cette, au moins une partie en tout cas, de l'histoire de Bifrost, au moins
de Bifrost et du Bélial en général. Au sens large, oui. Clairement. Ça, c'est typiquement l'ADN de la maison. C'est l'intérêt qu'on a tous sur la novella et puis la nouvelle, tout simplement. C'est-à-dire la SF sous sa forme courte, quoi.
Les trucs qui se vendent pas, quoi. Et
ouais, c'est ça, voilà.
Sauf que une heure lumière commence à bien se vendre, quoi. Donc, sauf que. Ouais.
En fait, c'est une légende, cette histoire des nouvelles qui se vendent pas. Enfin, on peut le retourner différemment. Je vais vous expliquer tout simplement. L'un des livres les plus vendus en France, c'est Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Mais c'est des nouvelles. Les robots d'Asimov, c'est quoi? C'est des nouvelles. Fondation, le premier, c'est quoi? C'est 3 novellas. Demain les chiens, etc.
Mais donc, c'est pas vendu en tant que tel.
C'est pas vendu en tant que tel, donc oui, mais en même temps, le lecteur, il est pas idiot. Il voit bien que ce qu'il est en train de lire, sur la longueur de texte, il voit bien que Fondation, c'est trois récits avec le même personnage qui revient et le même décor qui revient. Et moi, je peux te dire en tant qu'éditeur un truc qui est très simple, c'est que j'ai des romans que j'ai publiés qui se sont vautrés bien plus que certains recueils de nouvelles que j'ai bien vendus. Et notamment, tout simplement, Olivier pourra parler de Ken Liu, mais moi j'ai publié Ted Chiang il y a quelques années. Et Ted Chiang, à ma petite échelle, l'échelle de Lune d'encre, c'est un succès beaucoup plus que, je sais pas, 20 ou 30 romans de la collection qui ont fait 500, 600 exemplaires. La nouvelle et la novella, mon sentiment, c'est que ça se vend si on explique aux gens ce qu'ils vont trouver et si on arrive à trouver le biais pour les vendre. Mais je suis pas sûr que ça se vende beaucoup moins que les romans. Après, il y a des gens qui disent, moi, je dis que des romans. Bon, ça, c'est sûr. Il y a aussi des gens qui disent que des nouvelles ou qui disent beaucoup de nouvelles, qui aiment les nouvelles. Mais la spécificité de la science-fiction, quand même, enfin, une de ses spécificités, c'est que c'est un des rares genres. Regardez en littérature française contemporaine, est-ce que vous lisez beaucoup de nouvelles? Est-ce que les gens lisent beaucoup de nouvelles? Mais en polar, il n'y en a pas. Il n'y a pas de revue de polar ou très peu. Et en science-fiction, il y a des dizaines et des dizaines de revues. Il y en a des nouvelles sur Internet. Il y a un corpus qui est monstrueux parce que, comme la science-fiction, c'est globalement quand même une littérature d'idées, que quand on a une bonne idée et qu'on n'en a qu'une, la plupart du temps, on la développe sur une nouvelle ou une novella. Et bien forcément, la façon dont marche le genre... c'est ça. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les romans, et Dieu sait que j'en reçois des romans anglo-saxons et tout, la moitié des romans anglo-saxons qu'on reçoit, vous pouvez enlever la moitié du texte. Ça ne change absolument rien. Rien de rien de rien. Vous ne perdez pas une info, vous ne perdez pas une émotion, etc. Donc tous ces trucs-là ont énormément enflé, mais vous n'en avez pas plus à lire. Globalement, vous en avez moins à lire.
Ouais, c'est clair. Et on parlait de Vertige, de Sons of Wonder. Enfin, il est là, il est dans ce type de format-là, 9 fois sur 10, vraiment quoi.
C'est les trucs les plus novateurs.
Oui, clairement. Et je pense objectivement que une heure lumière, c'est pour ça que ça fonctionne.
Explique ce que c'est, parce que les gens.
Donc une heure lumière, c'est une collection. Alors nous cette année, donc c'est l'intitulé de la blonde, c'est nos 20 ans, donc on a lancé un certain nombre de choses, on cristallise. Des projets qu'on nourrit depuis longtemps, enfin on se fait plaisir. Et donc parmi les choses qu'on a lancées cette année, il y a la collection Une Heure Lumière, qui est une collection de courts romans ou de longues nouvelles, donc de novellas. Donc c'est des textes qui font 100 pages, quoi, à peu près, quoi. On en a lancé 6 cette année, quoi. C'est un truc, enfin, on tourne autour de ce projet-là, ça fait 10 ans qu'on en parle. Moi je me souviens de conversations qu'on avait avec Lehmann. 20 ans peut-être, ouais, enfin, ouais, oui, peut-être, je sais plus, mais ça fait très très longtemps qu'on tourne autour de ce truc-là et qu'on se parle de textes anglais qui nous font vraiment triper et on se dit, mais c'est pas possible, faut qu'on fasse circuler ces textes-là, il faut qu'on les traduise, il faut qu'on les publie. Comment on fait? Et dans Bifrost, c'est compliqué une novella parce que dans Bifrost, une novella elle bouffe le sommaire. C'est-à-dire que quand vous achetez la revue, si le texte vous plaît pas, il n'y a rien d'autre. Enfin, après, c'est la partie magazine, mais sur le sommaire des fictions, c'est fini. Donc, on l'a fait. On a publié de temps en temps. Voilà, je sais pas, notamment. On a publié des novellas et on continuera à en faire dans Bifrost. Mais on n'a pas assez d'espace. Et donc, on tournait autour de cette idée d'une heure lumière, qui est un nom... c'est Lehmann qui a inventé... Enfin, qui est à l'origine du titre de cette collecte. Et on s'est dit, voilà, c'est nos 20 ans, on le fait, quoi. Et honnêtement, moi, j'avais vraiment super envie de faire ça, mais j'étais pas sûr du tout de mon coup, commercialement, quoi. Et les reprêts, parce que bon, il y a cette dimension-là, moi, il y a toute la dimension commerciale, c'est-à-dire qu'on doit imposer à la force de vente nos visions, ce qu'on a envie de faire, et quand on arrive, alors, avec des projets éditoriaux, on leur dit, mais c'est pas du roman, c'est pas de la nouvelle, c'est pas un recueil, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc c'est du court roman inédit. Enfin, alors en plus, il y a toute une dimension commerciale qui vous échappe sans doute, mais sur la novella, nous, on peut pas le revendre en poche parce que le texte est trop court. Donc il y a une vraie prise de risque. C'est-à-dire que l'exploitation qu'on fait dans la collection Une Heure Lumière, elle est pour ainsi dire définitive. Il n'y aura pas de revente derrière. Et c'est quand même des traductions pour l'essentiel, donc ça coûte quand même de l'argent. Donc moi j'hésitais vraiment beaucoup tout en étant super excité par ce projet parce que c'est l'ADN du Bélial. C'est vraiment ce qui nous fait triper depuis tout le temps, quoi. Enfin, ce qu'il y a dans cette collection-là, C'est, enfin voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Et voilà, donc on a lancé ça cette année. On a commencé par 4 titres, puis 2 cet été. Et il se trouve que voilà, on en a déjà réimprimé un. Ça marche très très bien. Enfin, tout le monde me parle que de ça. Les libraires sont super contents. Enfin, c'est, ça fait même pas un an là, mais c'est vraiment un succès quoi. Donc ça. Ouais, ça correspond à une attente, clairement, et à plein de niveaux. C'est-à-dire que même sur la jeune génération, moi, j'ai un gamin qui a 17 ans et qui est comme plein de gamins, c'est-à-dire que qui lit un peu des trucs, mais qui lisouille des machins. Enfin, voilà, de temps en temps, il prend un truc. Bon, mais il y a un truc qui est rigolo, c'est que peu importe la taille du livre, quand il ferme le bouquin, il a lu un livre. Et même si le bouquin il fait 30 pages, il a lu un livre. Et ça, toi, c'est moi, voilà, mon fils, d'une heure lumière, il en a lu 3, quoi. Il lit jamais ce que je publie, enfin, rarement, quoi. Il lit les BD de Thomas Day, quoi. On en est là, quoi. Merci. C'est son parrain, alors, évidemment. Et ça, c'est signifiant pour les gamins. Donc, il y avait cette analyse-là aussi, sur ce public-là. Et il y a aussi des trucs très, très cons, sur des temps de trajet. Toi, t'es dans le métro, t'as 3 quarts d'heure, 1 heure, t'as lu un bouquin avant d'aller bosser, tu t'en lis un second en revenant. Enfin, voilà, ça, je pense que ça correspond aussi bizarrement à nos rythmes de vie d'aujourd'hui. Quoi. Et sur un format qui est quand même séculaire ou quasi, et qui est finalement hyper moderne, et qui correspond, pour encore une fois, souvent, enfin, à l'écume de la SF. Enfin, la crête de la vague, quoi. Donc voilà, on a lancé ça cette année et on est vraiment ravis, quoi.
Il faut qu'on dise un mot des autres collections là, de Votan et de Pulse aussi.
Cette année, donc on a lancé 3 trucs en plus de ce qu'on fait habituellement, les recueils, Bifrost, voilà, la ménagerie.
Quelqu'un a eu une année assez fatigante, notamment au niveau de la maquette. Alors tiens, d'ailleurs, anecdote, il faut savoir une chose au Bélial. Gilles parlait de Conan le Barbare tout à l'heure. Il faut savoir que toutes les maquettes du Bélial, en gros tous les travaux répétitifs au Bélial dont se charge Olivier, la maquette, la relecture, les choses comme ça, sont faites sur la BO de signé Basile Poledouris de Conan le Barbare.
C'est, voilà, c'est faux. Il y a du Pink Floyd aussi.
Il y a eu Pink Floyd, il y a du Excalibur aussi, ouais.
Du Noir Désir, ouais. Mais donc ouais, on a lancé une heure lumière. Donc là vraiment, on est vraiment vraiment ravis. Et on a et du coup là, je finis là-dessus sur une heure lumière, mais ce qui est génial, c'est que au regard de tout ce qu'on vient de dire, vous aurez bien compris qu'il y a un vivier de texte colossal. Enfin, on pourrait publier 20 heures lumière dans l'année sur 15 ans, qu'on continuera à publier des textes vraiment intéressants, quoi. Voilà. Dans le même temps, à l'initiative de Pierre-Paul, et ça, c'est pas une collection dont je m'occupe, parce qu'une heure lumière, c'est une collection dont je m'occupe de manière pleine et entière. On a lancé Pulps, donc là je vais te laisser en dire 2 mots puisque tu es le responsable éditorial, et on a lancé une collection qui s'appelle Votan, qui est une collection de projets, parce que ça aussi ça correspond à un délire de gamin, enfin faire des trucs de dingue, des trucs qui potentiellement, enfin commercialement, pas vraiment de sens, avec de la couleur dans tous les sens, des pages qui se déplient, des couvertures toutes douces quand on les touche, avec de l'embossage, parce que moi j'adore la fabrication aussi, cette dimension-là, la gueule du livre, comment on le fabrique, aller au cul des Heidelberg, tout ça, enfin voir comment se fait le livre, c'est un truc qui vraiment me fait triper aussi vachement, et donc quand on sort des bouquins qui font 1,5 kg, enfin avec des 5e couleurs, des 6e couleurs, des 7e couleurs, parce que c'est ça, là, sur Gotland, c'est ça. Enfin, c'est voilà, ça correspond aussi à une espèce de truc. Voilà, là, c'est ce que vous avez à l'écran. Et puis travailler avec des gens comme Nico Fructus, tout ça. Enfin, c'est aussi c'est du kiff, quoi. Enfin, moi, je parlais de liberté en début d'intervention. Le Bélial. Enfin, moi, c'est pour ça. C'est moi le seul luxe que j'ai, c'est de travailler avec qui je veux. Et ça, c'est du trip tout le temps. Tout le temps. Parce que, voilà, rien ne m'est imposé. Je travaille avec mes amis, je travaille sur les auteurs que je veux publier, et tout est de l'enthousiasme. Alors après, on peut se planter, ça peut plus ou moins marcher, enfin voilà, mais c'est de l'enthousiasme à tous les étages et en permanence. Et franchement, le Bélial, c'est ça, quoi. C'est, alors, ça se voit peut-être pas tout le temps, mais c'est ça. C'est vraiment le, c'est du kiff, quoi.
Non, mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de groupe, quoi. On se parle quasiment quotidiennement, quoi. Parfois une heure par jour, tous les jours de la semaine ou presque, quoi. Sauf quand je suis en retard sur une traduction, ce qui n'arrive jamais, mais arrive parfois. Et donc, c'est comme ça, en fait, que petit à petit, notamment des projets émergent, quoi. À la limite, quand on se voit comme ça. Hors contexte, quoi. Ici, on parle assez peu de boulot, quoi. Ça arrive parce qu'il se trouve qu'on est plusieurs. Bon, là, vous avez une réunion. Oui, bon, on est sous. Bon. Vous êtes sous, pas moi. Et alors, pour parler de Pulse rapidement, parce que la collection, il y a eu une espèce de petit galop d'essai au printemps avec un petit Jack Vance. Bon, ça prouve qu'on peut vendre de la SF un peu ludique, marrante, fun, etc. Patrimoniale, si on veut, mais c'est pas l'objet. Et on a décidé cette fois, plutôt que de publier un livre supplémentaire puis un autre, on a décidé de décaler ça en 2017. Bizarrement, le maquettiste était un peu fatigué, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, on a parce que par exemple, c'est une année où on a fait 5 Bifrost au lieu de 4. Il s'en est beaucoup plein, par exemple.
C'est à cause de lui. Hein.
et donc, le Pulse, les prochains titres, ce sera 2 Edmond Hamilton. C'est une série qui s'appelle Captain Future, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom de son adaptation télévisuelle qui était Le Capitaine Flamme. Et ça n'a jamais été publié en France. C'est une série d'une douzaine de romans et pas mal de nouvelles et novellas, quoi. Et donc on va publier ça sous le nom de Capitaine Future, même s'il y aura des références au fait que oui, c'est le Capitaine Flamme, celui qui n'est pas de notre galaxie. Ce qui est faux d'ailleurs, il est parfaitement dans notre galaxie, il est né sur Mars. Et donc c'est de la SF des années 30-40, c'est du Star Wars. Tout simplement, quoi. C'est Star Wars, oui, en quelque sorte. C'est une bande de. Un génie scientifique qui est évidemment beau, sourire Colgate, grand, roux, musclé, tombe les filles, etc. Un cerveau dans une boîte, un robot, un androïde. Ces gens-là, finalement, font régner l'ordre dans le système solaire. Alors, c'est supra premier degré. C'est pas une grande œuvre littéraire, mais c'est fun. Et ce genre de bouquin, à mon avis, il manquait. Et alors, on va pas en faire beaucoup. On fera peut-être 2 Pulse par an maximum, 2-3 peut-être. En plus, on a une série qu'il faut quand même mener un peu à son terme, quoi. Donc, on va pas en faire énormément en plus. Mais ça correspond aussi quand même à cette idée qui est celle du Bélial depuis le début. C'est que le Bélial, si la revue s'appelle Bifrost, c'est pas pour rien. Le Bifrost, c'est le pont arc-en-ciel qui relie le monde des dieux à la terre des hommes. Et donc, c'est un lieu de passage, un lieu de transmission, notamment un lieu de transmission du savoir. Et sous couvert de faire de la SF, de faire des trucs qui sont marrants et tout, on a aussi décidé de faire des trucs qui nous éclatent, mais aussi des trucs pas éducatifs. Mais depuis 30 ou 40 numéros, dans Bifrost, on fait des dossiers sur des auteurs, parfois on fait un numéro sur la culte, sur le rock et la SF, des choses comme ça. Et ça nous a permis, en fait, de cristalliser d'abord un certain nombre de compétences de gens qui ne seraient pas forcément venus travailler dans Bifrost, quoi. Des gens, des universitaires parfois, des scientifiques, la bande à Roland Lehoucq et tout. Et ça nous permet de donner du plaisir, mais du plaisir qui n'est pas complètement innocent. C'est aussi dire, voilà, il existe tel auteur, il a eu telle carrière. Quand on a fait des gros numéros qui ont vraiment demandé un travail que les gens n'imaginent probablement pas, les numéros sur Stephen King, par exemple.
Même sur le Howard. Hein,
le Howard, heureusement qu'on a à chaque fois, le Howard, on nous a amené le dossier clé en main.
Lovecraft a été redoutable,
ça, tu es bien placé pour le savoir. Martin a été redoutable. Ouais, oui, je me doute. Et c'est ça qui fait que nous, on continue à faire ça si les gens s'enthousiasment pour ce que fait le Bélial, c'est parce que le Bélial fait les choses avec enthousiasme, quoi. Et c'est la raison qui fait que ça a perduré pendant 20 ans et qu'avec un peu de chance, ça durera pendant au moins 20 ans encore. Quoi.
Moi, je conclurai là-dessus juste pour synthétiser ce qu'on vient de dire. Cette dimension, voilà, nouvelle, les cultes de la SF, le classique et surtout le plaisir. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, on ne cessait de me dire c'est la crise du livre, c'est la catastrophe, etc. Tout est foutu, on va tous crever. Ça fait 25 ans que j'entends dire ça. 25 ans. Nous, l'année dernière, le Bélial, on a fait plus 82% de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout.
Alors, ça m'inspire deux réflexions. C'est toi qui vas payer l'apéro, du coup ?
Bah, comme toujours. Ouais.
Et la deuxième, on m'a demandé de signaler que Gilles, Hugo et moi, on dédicace juste après à la librairie. Et Nico,
Gotland.
Et qui a tous les bouquins du Bélial, évidemment, à la librairie. Donc voilà, rendez-vous à la librairie. Merci beaucoup d'être venu aussitôt ce matin. Merci.